Bonjour, merci pour votre accueil. C'est un plaisir que de vous re-rencontrer pour ceux que j'ai déjà eu le privilège de rencontrer, puis pour les autres de vous découvrir. Alors, qui suis-je ? Ben voilà, je m'appelle Flavien Negrini, je viens de Poitiers, et ce que je peux faire, c'est grâce à vous que je peux le faire. Donc c'est quand même un privilège d'être au milieu de vous ce matin pour vous dire merci. Poitiers, c'est cette petite église que notre union a décidé d'implanter dans cette ville de Poitiers. Et donc, on a commencé un travail à zéro là-bas, grâce au soutien des uns et des autres, et grâce au soutien particulier peut-être de Melan, puisque vous aviez même en son temps délégué une personne qui venait donner les cours Alpha depuis Paris jusqu'à Poitiers, quand c'était tout au début. Alors, peut-être vous demandez maintenant, ça devient quoi, Poitiers ? Bien, ça grandit tout doucement. Alors, vous entendez, j'ai un petit accent, je suis suisse. Donc, c'est pour ça, ça tout doucement. Mais c'est très réjouissant. Aujourd'hui, on a une quinzaine de personnes, entre 10 et 20 personnes, qui ont fait vraiment un chemin de conversion. Alors, chacun à leur manière. Et notre grande difficulté, c'est que ces personnes n'ont aucune culture chrétienne, biblique. C'était vraiment notre objectif, non pas de construire une communauté avec ce qui est aussi bien, hein, mais avec des personnes qui sont un peu nulle part, mais qui sont chrétiennes à l'origine. Nous, on avait vraiment à cœur de toucher des gens sans église. Mais après, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué que ce qu'on imaginait, parce que comme pour la plupart d'entre nous, on est chrétiens depuis déjà un certain nombre d'années, on ne sait vraiment pas en vrai comment ils fonctionnent vraiment, vous voyez. Et quand on leur propose de venir dans nos rencontres qu'on a l'habitude et que nous on trouve génial, ils sont assez surpris et ils ne trouvent pas forcément génial. Ce qui fait que voilà, ça nous invite à une remise en question constante. Et c'est passionnant, mais c'est fatigant. Voilà. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire et vous laisser ce sujet de prière, c'est que voilà, nous sommes dans une phase de réflexion, de transition. Justement parce qu'il nous faut commencer à former des personnes qui vont s'occuper de ses amis, parce qu'on est si mal équipé finalement de savoir comment vraiment faire route, et c'est passionnant et en même temps on ne sait pas trop comment s'y prendre, mais c'est un superbe défi et ne le prenez pas mal, mais je m'amuse beaucoup et c'est un des terrains d'humilité constante, parce que quand je fais des études bibliques au café d'un de ses amis qui s'est converti, et puis qu'il me dit « Flavien, tu te prends pour qui, là ? Faudrait voir à redescendre sur terre et à essayer de rester accessible, s'il te plaît. » Puis il dit ça devant ses amis, clients, mes copains. Puis c'est très vrai comme il me le dit. Hein. Alors c'est de l'humour, puis en même temps, je m'excuse platement, excuse-moi, je vais essayer d'être plus... Mais c'est super, voilà. Et j'ai envie de dire, c'est grâce à vous tout ça aussi. Alors continuez. Et puis j'aimerais vous dire que juste à côté, là, quand vous sortez dans la rue, il y a tous ceux que Dieu vous a confiés à vous. Alors ne les oubliez pas non plus. Le texte de ce matin va en plus dans le sens de ce que je vis et de ce que nous sommes appelés à vivre, puisque le texte du jour se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Et que c'est un des textes que certainement nous connaissons le mieux dans nos Bibles et qui nous paraît d'une limpide clarté. Et peut-être qu'il suffirait que je le lise et que je retourne m'asseoir, mais après Frédéric va me faire des reproches, alors j'ai promis d'être un peu plus long. Je vous invite à lire ce texte, Évangile de Jean, chapitre 3, versets 14 à 21. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui met sa foi en lui n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas mis sa foi dans le nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les humains ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque pratique le mal déteste la lumière. Celui-là ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en Dieu. Alors c'est vrai qu'en général, on en reste à Jean 3,16 et que le texte nous paraît d'une limpide clarté. Mais quand on le lit avec un peu plus d'attention, on se dit « mais qu'est-ce qu'il veut vraiment dire ?» Et quand vous mettez un petit peu le contexte autour, vous vous dites « mais qu'est-ce qu'il veut vraiment, mais vraiment dire ?» Parce que le contexte, c'est un homme qui vient rencontrer Jésus parce qu'il a des questions, une question simple. Une question tellement simple. Et le contexte, c'est que cet homme reçoit ce que vous avez entendu, mais qu'on ne sait pas s'il a compris ce qui lui a été dit, puisqu'il sort du récit sans qu'on sache trop comment. Et qu'en écho à ce qui est dit, c'est la suite du texte qui va y répondre par la bouche de Jean-Baptiste. Donc un texte fascinant, question qui reste en suspens, et puis c'est un autre qui va nous dire comment comprendre réellement ce qui nous est dit. Un texte facile et pourtant difficile parce qu'il va questionner nos vies en profondeur. Nicodème, c'est un homme remarquable. C'est un spécialiste de la loi. Donc, c'est mieux qu'un pasteur. C'est le niveau au-dessus. Alors chez nous, il n'y a pas, mais c'est vraiment le spécialiste, quoi. Vous voyez, il passe son temps à se poser quand même des questions sur comment faire bien pour honorer Dieu. Alors vous me direz, les pasteurs aussi, mais j'ai envie de dire, les paroissiens aussi. Et Nicodème, il a à cœur Dieu. Ce n'est pas un païen, Nicodème. C'est un homme qui aime Dieu et qu'il aime profondément, qui a consacré sa vie à Dieu et à réfléchir à la question de Dieu. Quelque part, c'est un peu comme chacun d'entre nous qui venons au culte dimanche après dimanche. Et Nicodème, il a des questions spirituelles, comme chacun d'entre nous, et sa grande question, c'est qui est Jésus ? Qui est-il vraiment ? Et la grande réponse que Jésus lui adresse, c'est que tu ne peux pas comprendre si tu n'es pas d'en haut. Merci pour la réponse. Et alors, comment est-ce qu'on peut naître d'en haut ? Eh bien, c'est la suite, c'est ce que l'on vient de découvrir là. Mais Jésus commence en lui disant qu'il se compare au serpent élevé, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Ce qui devient assez compliqué, en tout cas pour moi, parce que dans mon enfance, on m'a raconté cette histoire qui se trouve dans le livre des Nombres, au chapitre 21, et on m'a raconté que le peuple d'Israël, qui était dans le désert, s'est beaucoup plaint. Il a râlé contre Dieu parce qu'il avait faim, parce qu'il avait soif, parce que ça n'allait pas comme il voulait. Et Dieu en a eu assez qu'il râle. Et vous savez ce qu'a fait Dieu ? Un truc vraiment pas sympa. Il a envoyé des serpents. Vous aimez les serpents, vous ? Moi, je trouve ça abominable. Et il a envoyé des serpents, et ces serpents les ont mordus, et il y a un paquet de monde qui est mort. Alors, c'est l'Ancien Testament, il faut voir avec Émile Nicole pour qu'il vous explique ça en plus. Mais c'est quand même sauvage, cette histoire. Et à la fin, ils vont tous se plaindre vers Moïse en disant « faut faire quelque chose, on est tous en train de mourir ». Et Moïse dit « pas de problème ». On va faire un serpent en airain, en bronze, et puis on va le mettre sur un bâton. Puis il suffira de regarder ce serpent, puis vous ne mourrez plus quand vous êtes mordu. Alors, vous savez, quand on est acculé, on fait tout ce qu'on nous dit. Hein. Alors, ils font tout ça. Et ça marche. Mais c'est choquant, parce que le serpent, c'est Genèse 3. C'est celui qui nous a détournés de Dieu. C'est de sa faute si on est dans cette situation. Enfin, et puis le serpent, là, il les a mordus pour les tuer, enfin, puis il y en avait un paquet. Et Jésus s'identifie au serpent. Alors le serpent dans la Bible, c'est particulier. Vous savez, le serpent, c'est aussi Moïse, avec son bâton. Son bâton qui devient un serpent quand il le jette par terre et qui lui fait peur. La première fois, il doit courir devant, puis hop, ça devient le signe de son pouvoir et de son autorité. Et puis Aaron, il a le même privilège. Et même que le bâton d'Aaron, eh bien, il va manger tous les serpents des autres qui ont fait la même chose que lui. Et ça sera aussi le signe de l'autorité d'Aaron. Et puis ce serpent qui est bâton, ce bâton qui devient serpent, eh bien finalement, ça va être un signe, puisqu'il sera dans le tabernacle, et c'est ce bâton qui va germer comme signe de l'amour, de la grâce de Dieu. C'est bizarre quand même. Il dit tout ça à Nicodème. Alors, il venait juste lui poser une question simple, quoi. Comment je peux rentrer enfin, t'es qui ? Et Jésus dit, tu ne peux pas comprendre, il faut naître de nouveau. Et pour naître de nouveau, il faut regarder au serpent comme... C'est moi, il parle de la croix. Hein. Manière de dire, ce qui te tue peut te sauver. C'est presque de l'homéopathie. Étonnant. Alors, je ne veux pas creuser beaucoup plus parce qu'on n'a pas tant de temps que ça ce matin, mais c'est interpellant. Ce qui te tue peut te sauver. Le regard que je porte sur Jésus peut me tuer comme il peut me sauver, en fonction de qui je regarde. Et c'est la suite du texte, lumière, ténèbres. Ce qui te tue peut te sauver. Selon comment tu regardes. Selon où tu regardes. Alors, c'est un texte fascinant encore, puisqu'il va parler du jugement. Et vous savez qu'on se pose tous cette question, et que Nicodème, étant un spécialiste de la loi, c'est bien ça qu'il vient voir auprès de Jésus. C'est qui est-il ? Est-ce que tu peux nous aider à régler cette question de relation avec Dieu qui nous fait peur ? On l'a rappelé, hein ? Les conséquences d'un dysfonctionnement vis-à-vis de Dieu peut conduire à l'exil, à la perte de Dieu, au jugement de Dieu. Et d'ailleurs, nous, évangéliques, on est assez forts pour le jugement, puisqu'on essaye d'être très moraux dans nos approches et dans notre manière de rejoindre les hommes et les femmes, mais de rejoindre nos vies aussi. On est sévère souvent contre nous. Et soi-même, hein, on a un regard souvent très exigeant, et je crois que c'est juste de sainteté, de sanctification. On essaye de bien faire. Pourquoi est-ce qu'on a... Parce qu'on veut honorer Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'on veut bien faire ? On n'aime pas recevoir des baffes, quoi. On a peur du jugement aussi. Et souvent, on se promène avec un sentiment de culpabilité considérable qui nous amène à des fonctionnements surprenants. On essaye, on n'arrive pas, et on a peur, on est déçu. Puis on a peur du jugement de Dieu. Alors ce texte, il va parler aussi du jugement. Et la manière dont Jésus aborde la question pour Nicodème est assez surprenante. Il lui dit en gros, si tu ne comprends pas maintenant, tu es déjà jugé. Et la question du jugement, pour Jean, elle n'est pas liée à un faire, mais à un croire. Ce n'est pas ce que tu fais, mais c'est comment tu crois. Mais vous vous dites, ouf, le seul problème, c'est que la personne à qui il dit ça, c'est quelqu'un qui fait tout bien et qui croit juste. Et que c'est difficile de comprendre ce qu'il faut qu'il croit en plus, finalement. Ce qu'il croit en plus, c'est qui est Jésus. Ce qu'il doit découvrir en plus, c'est que Dieu ne se veut pas juge. C'est étonnant tout ça, même si effectivement au fil de l'histoire, on a découvert que Dieu était aussi juge. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu veut que Nicodème le rencontre en Jésus-Christ. Alors, la question, la grande question finalement, lumière, ténèbres, ne pas croire au Christ, c'est rester dans les ténèbres. Quelle est ta vraie attente ? La vie. C'est ce que Jésus propose à Nicodème, la vie. La vie maintenant. La vie éternelle maintenant. Et c'est là qu'il a cette sortie extraordinaire qu'on aime tant, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils. Et ça, ça va bouleverser mon rapport à Dieu. Et ça devrait encore bouleverser mon rapport à Dieu, et ça devrait bouleverser mon rapport à moi-même et au monde. Et ma tristesse aujourd'hui dans ma vie, c'est que je me rends bien compte que ça ne bouleverse pas tant que ça. C'est-à-dire, je suis marié depuis un certain nombre d'années, on a 4 superbes enfants. Je suis désolé, c'est les plus beaux, les plus forts, les plus intelligents. Mais on s'habitue à aimer. Et ça devient sympa, agréable, réconfortant. Mais la passion, on dit que c'est pour la jeunesse. Alors que ce texte est en train de me dire que ça fait des milliers d'années que Dieu aime ce monde et qu'il continue à l'aimer avec cette fougue et cette passion qui est absolument illogique, irresponsable. Ce que vous voulez, c'est complètement indécent que Dieu se fasse homme et qu'il accepte de mourir à ma place. En vieillissant, c'est moins indécent que ma femme m'aime comme elle m'aime. Au début, j'étais tellement beau, fort, intelligent, c'était normal. Maintenant, ça lui demande plus, vous voyez. Avec Dieu, c'est pas comme ça, quoi. Cette passion qu'il a pour les hommes, elle est intacte depuis le début de la création. Et finalement, ce qu'il est en train de dire à Nicodème, c'est qu'il y a un changement, il y a un transfert de manière de voir Dieu qui doit avoir lieu, il y a un déplacement, il y a quelque chose de beaucoup plus même radical que la notion de déplacement, il y a une nouvelle naissance dans laquelle il faut entrer, mais qui doit changer ma manière de comprendre l'amour. Jésus est en train de dire à Nicodème, Dieu s'est fait homme. Mais vous me direz, mais oui, on le sait, c'est de la théologie. Non, on ne le sait pas. Si vraiment on le savait, nos églises ne fonctionneraient pas comme elles fonctionnent. L'incarnation, c'est juste indécent. Réfléchissez 2 secondes. C'est Dieu, le créateur du ciel et de la terre, et il vient se faire créature. Il vient marcher là. Et vous savez pourquoi il fait ça? Parce qu'il nous aime. Il renonce à tout ce qu'il est, à toute sa... Et il se laisse tuer par nous. C'est ça, aimer. Et j'ai de la peine à vivre ça dans mon couple. Alors imaginez avec le monde. Et voyez, c'est là-dessus que ce texte devrait nous interpeller. C'est sur l'incarnation, c'est sur le sens du mot aimer. Moi, j'aime Dieu quand il me fait du bien. J'aime Dieu quand je vis un moment de louange extraordinaire qui entraîne mes émotions, mes sentiments. J'aime Dieu quand je lis un texte qui me touche parce que je découvre la grandeur de Dieu. Alors, j'aime Dieu. Mais là, c'est un texte qui me dit, attends, Dieu aime et aimer pour Dieu, ça veut dire se faire homme, comme toi. Ça veut dire que Dieu va jusqu'au bout pour toi. Alors, une fois que j'ai compris que c'était bien ce que Dieu voulait pour moi, que ça a touché ma vie, que ça me fait dire oui à Dieu, à ce Dieu-là, eh bien, ça devrait me questionner sur qu'est-ce que ça change réellement dans ma vie. Et vous savez, c'est une des plus belles choses que je vis aujourd'hui à Poitiers, c'est quand mes amis qui sont devenus chrétiens vont interpeller les membres de leur famille pour leur dire « D'y voir, est-ce que j'ai changé ?» Et puis que les gens disent « Ah ouais, non, il a changé, hein !» Ah ben ouais, il a changé, hein. Et c'est ça la foi. Alors pour moi, c'est un texte qui m'invite à me reposer la question, mais qu'est-ce qui change encore dans ma vie à cause de la compréhension de l'amour de Dieu pour ce monde? Ce texte est en train de me dire que la vie, elle est liée à la relation que j'ai avec le Christ, que c'est lui qui donne la vie. Mais en vrai, la vie, c'est quand ça va bien pour moi. La vie, c'est quand j'ai un bon salaire, que j'ai des belles vacances, j'ai des beaux enfants, j'ai des membres d'église qui sont sympathiques, que c'est ça la vie en général. Ce texte est en train de dire, c'est pas ça la vie. La vie, c'est la relation que tu as avec celui qui a donné sa vie pour toi. Et c'est lui qui donne la vie. La vie, c'est un cadeau que tu reçois, qui n'est pas lié à ce que tu fais ou que tu vis. Alors, dire ça quand ça va bien, c'est assez facile. Mais quand les tuiles, elles tombent sur nos vies, c'est difficile. Et en même temps, je trouve ça tellement encourageant, parce que c'est un texte qui dit « Mais quand la vie va mal, va à la source de la vie, tu pourras découvrir la vie même quand ça va mal. » Et ça, c'est tellement fortifiant, tellement encourageant, tellement bienfaisant. Finalement, la mort, c'est pas juste un jour s'arrêter de respirer. La mort, c'est une manière de vivre. Et c'est un texte qui questionne nos vies sur leur manière de vivre. Une fois que la première émotion est passée, découvrir un Dieu qui m'aime au point de s'être fait homme, c'est un texte qui m'interpelle sur qu'est-ce que tu vis vraiment, c'est quoi la vie pour toi. Et c'est un texte qui m'interpelle en me disant, le jugement de Dieu, est-ce qu'il n'est pas déjà sur ta vie, puisque en vrai, tu n'es peut-être pas totalement vivant. Alors pourquoi avoir peur de demain, quand déjà aujourd'hui, tu es peut-être à côté? Un texte fascinant, parce qu'il parle de vie éternelle au présent, parce qu'il dit que je suis aimé au-delà du bon sens. Un texte fascinant aussi, parce que quelque part, il me demande une réponse. Et cette réponse, le texte ne nous la donne pas. Nicodème, on ne sait pas par quelle porte il est sorti, mais il n'a pas répondu. Et c'est donc pour que nous puissions prendre la place de Nicodème, si nous le désirons. Tu vis de quoi, toi? Qui est le Christ pour toi? Qui est-il vraiment? Profondément. Et alors, plutôt que de vous faire des théories théologiquement intéressantes et bien fondées, allez demander à vos amis, est-ce que ma vie change? Pour moi, l'Évangile est une puissance de transformation. Et pour nous, parents, allez demander à vos enfants. C'est très déconcertant. Désagréable parfois. Mais est-ce que ma vie change encore? La puissance de l'Évangile est une puissance de transformation. Si ma vie change, le monde qui m'entoure va être transformé par les changements de ma vie. Et je vais découvrir qu'il y a des hommes et des femmes à côté de moi que Dieu aime passionnément et qu'il m'invite à les rejoindre. Et que je peux avoir un impact dans cette société, non pas par mes mots, mais par ma vie. Non pas par ce que je dirais qu'il faudrait qu'il soit, mais parce que par ma présence, je vais manifester la vérité de cette vie qui m'habite et qui ne m'appartient pas, qui est un don, lié à la relation que j'ai tissée avec celui qui est le ressuscité. Alors, le monde nous attend, Dieu nous a tant aimés. Et il continue à nous aimer passionnément, d'une manière incompréhensible. L'accueil que je ferai à qui il est réellement va déterminer effectivement de quelle vie je vis. C'est la question que je vous laisse, et pour conclure, je vous invite à prier. Seigneur, ce matin encore, tu nous invites à venir vers toi pour croire. Tu sais que nous venons souvent pour voir. Et sans nous reprocher de vouloir voir, tu nous invites à croire pour venir autrement. Alors j'aimerais te demander que tu nous aides à accueillir encore cette richesse que tu es. J'aimerais te demander que tu nous apprennes à accueillir ta vie en nous et apprendre à ne pas vivre simplement de nos vies, mais à recevoir ta vie chaque jour davantage pour être porteur de cette vie autour de ceux qui nous entourent. Amen.